France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Louise Cognard, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Joséphine Reinhardt et Antoinette Benoît. À la réalisation Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est François Saint-Jour. Alors que les catholiques du monde entier se préparent à célébrer Pâques, Culture Monde s'intéresse à une communauté traversée par les doutes et qui s'interroge sur sa place dans le monde. Après avoir évoqué les grands projets de réforme de l'Église entrepris par le pape François, avant d'évoquer la montée des courants identitaires aux États-Unis et enfin le rôle politique des prêtres et des évêques sur le continent africain, place ce matin à l'activisme diplomatique du Vatican. Le discours pacifiste de François est-il encore audible ?
Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Israël et en Palestine, en particulier à Gaza. Je suis également proche de la communauté chrétienne au Liban, particulièrement au sud, et celle de Syrie, en cette période si délicate.
Les guerres qui éclatent de par le monde et que nous nous efforçons de résoudre, elles ne naissent pas que dans les champs de bataille. Ces batailles naissent ici, dans le cœur de l'homme. Elles naissent dans les sentiments de haine que nous portons avec nous dans nos relations avec les autres.
D'abord, on est là pour prier et pour la paix surtout. Et je suis contente que le pape ait la pensée à nous. Il a dit ça dans son discours. Et je suis contente également qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont participé.
Comme à chaque fois qu'il en a l'occasion, lors des célébrations publiques de Noël ou de Pâques, lors d'un discours, d'une rencontre, d'une conférence de presse ou bien par des messages postés sur ses réseaux sociaux, le pape François exhorte sans relâche à faire cesser le bruit des armes. La paix dans le monde, c'est le moindre des souhaits que l'on puisse attendre de la part d'un chef spirituel, mais c'est un cap parfois plus difficile à tenir pour un appareil diplomatique. L'Église catholique, seule religion à posséder un statut de droit international, dispose d'un réseau de diplomates dont la taille est sans commune mesure avec celle de son territoire, les 44 hectares du Vatican, et qui lui permet d'entretenir des relations officielles avec plus de 184 États. Si les diplomates du Vatican œuvrent à la défense des intérêts de l'Église et des communautés catholiques, ils sont également assignés à une tâche plus intemporelle, la réconciliation entre les peuples. Et c'est l'une des priorités du pape François. Mais face aux guerres qui se multiplient, au réarmement, aux atteintes aux droits humanitaires, quels sont vraiment les leviers d'action du pape? Ses discours de paix pour l'Ukraine, le Moyen-Orient ou encore le Soudan sont-ils encore audibles? Comment défendre une ligne pacifiste sans se compromettre avec des régimes qui n'ont que faire de la dignité humaine? On en discute avec notre invité François Mabille. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes politiste, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Votre dernier ouvrage, Le Vatican, la papauté face à un monde en crise, vient de paraître aux éditions Erol. Et je voudrais qu'on commence cette discussion, François Mabille, par essayer de comprendre dans quelle continuité le pape François s'inscrit par rapport à ses prédécesseurs. Le Vatican a-t-il toujours été aussi pacifiste et aussi attaché à la paix que l'est François? Ou bien François apporte quelque chose de différent, de nouveau, voire quelque chose en rupture avec ses prédécesseurs?
Alors il y a effectivement des continuités, si on regarde le XXe siècle, et puis j'ajouterai, on pourra développer quelques inflexions, mais qui sont des inflexions tout de même fortes. Continuité, la papauté s'est toujours dite en faveur de la paix. Ce qui signifie qu'au XXe siècle, elle a soutenu la création de la Société des Nations avec l'idée qu'il y avait une communauté humaine et donc que les rapports entre les États devaient s'inscrire dans un ordre, on va dire, international pacifié, que pour cela, il fallait une organisation internationale. Plus près de nous, le pape Jean XXIII a consacré en 1963 une encyclique, Pacem in Terris, qui a connu un fort retentissement. Et puis on pourrait parler effectivement également également de Jean-Paul II, qui a eu une action en faveur de la paix. Donc il y a une ligne de force dans le Vatican et dans l'enseignement de l'Église en faveur, effectivement, d'une approche pacifiée des relations internationales et d'un refus de la guerre. C'est là qu'il y a une inflexion avec le pape actuel, puisque celui-ci critique toute guerre en disant que toutes les guerres aujourd'hui sont des guerres injustes et qu'il y a peut-être d'ailleurs une confusion entre ce qu'on appelle la légitime défense, qui est reconnue par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et puis le fait de mener une guerre. Et le pape semble effectivement à la fois condamner toutes les guerres, sans trop de nuances, condamner également non seulement la dissuasion nucléaire, mais l'arme nucléaire, seconde inflexion majeure par rapport à ses prédécesseurs. Et dans le cadre de certains conflits particuliers, je pense notamment à l'Ukraine, ceci l'amène à prendre des positions assez singulières par rapport à l'histoire de la papauté au XXe siècle.
Sur la question des armes nucléaires, vous écrivez dans votre ouvrage que c'est effectivement une inflexion majeure et que ses prédécesseurs avant lui avaient peut-être fait une concession en disant la dissuasion nucléaire est acceptable à condition qu'elle soit temporaire et qu'elle soit un instrument pour amener à un désarmement futur des nations. Et là, donc, on a un changement plus ferme. Le Vatican est-il signataire du traité sur l'interdiction des armes nucléaires ?
Oui, il est même l'un des tout premiers États à avoir signé ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et c'est effectivement un changement majeur. On peut dire brièvement qu'il y a trois phases dans l'attitude du Saint-Siège. Une première phase qui commence avec tout simplement l'explosion des premières bombes, et donc le Saint-Siège est saisi comme l'était le moment entier. Ensuite, il y a eu un deuxième moment important au tournant des années 80, lorsqu'il y a eu la crise des euromissiles. On a vu un certain nombre d'épiscopats s'interroger sur la moralité de la dissuasion nucléaire, avec bien évidemment la question de l'emploi qui est associée. Et à l'époque, donc il y a 40 ans maintenant, la réponse du Saint-Siège et des épiscopats était une sorte de « oui mais ». Oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais mettons le temps qui vient à profit pour sortir de cette situation. Et il semble que le pape, en signant ce traité d'interdiction, dise aujourd'hui le temps de l'acceptation de la dissuasion est révolu, et il va même donc plus loin, de manière cohérente, en disant, puisque la dissuasion n'est pas morale et qu'on ne peut pas l'accepter, empêchons également la possession même de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire est immorale en tant que telle dans les domaines militaires. Et bien évidemment, dans l'époque troublée dans laquelle nous sommes, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes par rapport à l'enseignement traditionnel de l'Église. Et puis, se pose également la question de la réception dans les différentes communautés catholiques de ce type d'approche.
Et quand il prend cette décision, François, est-ce qu'il la prend seul ou est-ce qu'il consulte en interne le Vatican ? Autrement dit, cette inflexion qui est tout de même majeure avec la signature du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, oui. C'est sa décision propre. Ou c'est le Vatican qui bouge tout entier.
C'est sa décision qui vient après des interventions du même genre dans le cadre de conférences sur le désarmement et notamment sur la question nucléaire. C'est une décision qui s'appuie également sur des mobilisations de communautés catholiques particulières. Aux États-Unis, moi j'ai participé à 4-5 rencontres qui étaient organisées par des universités catholiques, par exemple l'université de Georgetown, jésuite, sur le sujet, ou l'université Notre-Dame, qui ont plaidé en faveur, effectivement, d'une nouvelle réflexion, d'une nouvelle ère, en quelque sorte, pour le Saint-Siège par rapport à ces questions-là. Ce qui signifie qu'il y a des minorités actives au sein de l'Église catholique qui font, au bon sens du terme, du lobbying pour faire évoluer les positions du Saint-Siège. Et il semblerait que ces universités ou des mouvements comme Pax Christi International ou certaines conférences épiscopales en Grande-Bretagne aient plaidé et eu une certaine influence, effectivement.
En février 2024, le pape François demande à l'Ukraine, on est déjà 2 ans après le début de la guerre, d'avoir le courage, je cite, de négocier, le courage de hisser le drapeau blanc afin, défend-il, de préserver des vies humaines.
Je pense que le plus fort est celui qui est capable de prendre du recul sur la situation, sur l'impact sur la population, et qui a le courage du drapeau blanc, de la négociation. Le mot « négociation » est un mot courageux. Lorsque vous voyez la défaite venir, lorsque les choses ne vont pas bien, vous devez avoir le courage de négocier. Certains peuvent avoir honte, mais combien de morts avant de voir que c'est terminé ?
Extrait d'une interview donnée à la chaîne suisse RTS en février 2024. Un appel qui a été assez mal perçu par les Ukrainiens qui lui ont rétorqué que le seul drapeau qui comptait à leurs yeux était le drapeau bleu et jaune et non le drapeau blanc. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, François Mabi, est-ce qu'on peut déduire de cet appel du pape qu'il n'y a donc, comme vous le disiez tout à l'heure, selon lui, aucune guerre juste, aucune guerre de légitime défense ?
D'une certaine manière, oui. Même s'il a été contredit par le numéro 3 de la secrétaire d'État, Mgr Gallagher, qui quelques jours après a donné une interview dans laquelle il disait à peu près le contraire, c'est-à-dire il faut que l'Ukraine continue à être armée par les pays occidentaux, et ce jusqu'à la victoire finale. Ce sont ces termes.
Mais effectivement, et comment on interprète cette contradiction entre plusieurs hauts responsables du Vatican ?
Alors, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est sans doute une singularité de ce pontificat que de constater que le pape a souvent été, on va dire contredit. Le Saint-Siège dirait il y a eu un commentaire qui permettait de mieux comprendre la pensée du pape. Mais enfin, dans la réalité, ça reste quand même des contradictions. Souvent parce que le pape, et l'extrait que vous avez cité est significatif, c'est une interview, le pape s'exprime, je dirais, de manière libre, sans texte préparé, sans nécessairement très bien comprendre ou connaître le fond du sujet. Donc il y a des expressions qui peuvent être maladroites, et dans le cadre de la guerre en Ukraine, il en a usé de beaucoup. Et là, effectivement, on est typiquement dans l'approche pacifiste, c'est-à-dire je refuse l'usage des armes, alors je critique la guerre d'agression, mais là, tout de même, il s'adresse non pas à la Russie, mais seulement à l'Ukraine, en lui demandant, en fait, une reddition. Et ça a suscité, effectivement, une violente polémique entre l'Ukraine et le Saint-Siège.
Il a aussi été reproché au pape, dès 2022, d'être réticent à condamner fermement l'invasion russe. Est-ce que cette posture est en train de changer ? On voit des inflexions, notamment de la part du cardinal Gallagher que vous avez cité, mais aussi de Pietro Parolin, le numéro 2 du Vatican, qui récemment appelait à ne pas écarter les Ukrainiens des négociations. Il dénonçait également de manière plus ferme l'agression militaire. Donc, est-ce que ça veut dire, encore une fois, qu'il y a des contradictions au sein du Vatican, que la position est en train d'évoluer ? Est-ce que le Vatican fait un aggiornamento sur cette première posture très pacifiste ?
Oui. Il y a sans doute deux éléments. Les deux hommes que vous avez cités, le cardinal Parolin et Gallagher, sont de diplomates de profession. Ce qui signifie qu'ils sont formés à la diplomatie, ils connaissent les techniques de négociation, de médiation, ce qui n'est pas le cas du pape. Et le deuxième aspect, c'est que effectivement, depuis les premiers mois du conflit jusqu'à maintenant, il y a eu une évolution dans la position, y compris du pape, qui initialement s'est mal positionné. Quand on reprend la posture traditionnelle d'un médiateur, d'abord il faut qu'un médiateur soit accepté par les parties en présence.
Voilà. Oui, parce qu'il a fait une proposition de médiation de février 2022,
alors que ni Zelensky ni Poutine ne lui demandaient, et qu'au regard même du traité de Latran qui ordonne en quelque sorte la place du Saint-Siège sur la scène internationale, vous avez un article, l'article 24, qui stipule que le Saint-Siège ne peut se faire médiateur que si les parties en présence le lui demandent. Donc là, il y avait déjà un premier problème. Il y a eu un deuxième problème, c'est que dans une médiation, on vous demande d'être neutre et impartial. Et le pape a utilisé des expressions qui étaient extrêmement maladroites. Par exemple, lorsqu'il a dit qu'il n'y aurait pas eu la guerre si l'OTAN n'avait pas, je le cite, « aboyé aux portes de la Russie », immédiatement, l'Ukraine a dit « mais là, vous reprenez un élément de langage qui est celui de la Russie ». De la même façon que lorsqu'il a dit « la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre entre chrétiens », il parlait d'une culture religieuse commune, et immédiatement, les Ukrainiens ont dit « mais de nouveau, c'est une expression et un élément de langage qu'utilisent les Russes ». Donc on est parti d'une position qui était mal assumée, avec un enjeu qu'on comprend bien, qui était celui de parvenir absolument à faire la paix entre les deux acteurs, mais sans doute en comprenant mal également que le moment n'était plus véritablement opportun. On était dans un conflit qui était chaud, brûlant. Et on a vu une évolution progressive durant la première année jusqu'à maintenant, puisque depuis, la guerre russe a été condamnée en tant que telle comme une guerre d'agression.
Le pape François a souvent exprimé sa préoccupation pour l'établissement de bonnes relations avec l'Église orthodoxe de Russie et avec son homologue, si on peut dire ça comme cela, le patriarche Kirill de Moscou. En quoi ce dossier-là, des relations entre les catholiques et les orthodoxes, a-t-elle aussi pesé dans la posture du pape entre l'Ukraine et la Russie ? Autrement dit, est-ce que son souci de maintenir un lien avec les orthodoxes force russe, eh bien, biaise d'une certaine manière sa posture de neutralité.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un aspect qu'il faut prendre en compte. En fait, si vous voulez, lorsqu'on se focalise sur un enjeu particulier, on a tendance à oublier les autres aspects qui peuvent entrer en ligne de compte. Or, d'une certaine manière, le Saint-Siège pratique une politique bien connue qu'on appelle du linkage, c'est-à-dire associer des thématiques entre elles, associer des dossiers entre eux. Donc là, en l'occurrence, derrière la guerre en Ukraine, il y a de manière plus ancienne la volonté des papes précédents, ce fut le cas de Jean-Paul II et puis de Benoît XVI, et désormais du pape François, de revenir à des relations normales avec le patriarche Kirill, et en l'occurrence, effectivement, l'église orthodoxe de Moscou. Mais là encore, vous voyez, avec, je dirais, des ambiguïtés qu'on ne passerait pas nécessairement à des hommes politiques. C'est ce que je veux dire par là, c'est que négocier, traiter, rencontrer le patriarche Kirill, ça signifie qu'on estime qu'il est un interlocuteur valable, normal, qu'on peut discuter avec lui. Alors, ce que le pape fait, mais du coup, en oubliant tout de même la personnalité du patriarche Kirill, qui est quand même bien connu sur la scène internationale.
Alors, on va rappeler notamment sa proximité avec Vladimir Poutine et exactement, le soutien total qu'il a apporté à la guerre en Ukraine.
Et là, on voit bien, si vous voulez, une sorte d'ambiguïté où il y a à la fois le cadre des relations interreligieuses, œcuméniques en l'occurrence, et le pape est dans son rôle, mais avec sans doute un oubli ou une volonté de minorer certains aspects qui peuvent être plus dérangeants, voire, ce qui est une autre ambiguïté du pape, des accords qui peuvent être possibles sur certaines valeurs. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les deux hommes se rencontrent à Cuba en 2016, la photo est historique. On oublie de lire le communiqué qui a été signé par les deux hommes. Or, le communiqué est une façon pour le pape François de s'aligner sur les positions du patriarche Kirill, qui ne cesse de critiquer l'Europe, l'Occident, la liberté religieuse selon lui attaquée en Europe de l'Ouest, et le communiqué reprend cela. Donc vous voyez, il y a là une sorte de compromis, une volonté de compromis qu'on a tendance à mettre de côté et qui néanmoins existe et doit être souligné dans le cadre des relations diplomatiques du Vatican.
En tout cas, ce que souligne le cas ukrainien, c'est que il pose la question de savoir est-ce qu'on peut parler avec tout le monde ? Est-ce qu'il y a des acteurs sur la scène internationale qui sont infréquentables entre guillemets ? C'est une question à laquelle toutes les diplomaties du monde sont confrontées. Comment est-ce que le Vatican y répond à ce...
Je dirais qu'il n'y répond pas véritablement. Et c'est peut-être un point aveugle, y compris dans les analyses qu'on peut mener de cette diplomatie, que de vouloir la présenter comme une diplomatie uniquement ordonnée autour de la question de la paix, ce qu'elle est effectivement, mais en ignorant les aspects qui ne sont pas des aspects subalternes et qui sont néanmoins intéressants. Dans l'extrait initial, je pense que la question de la Syrie a été également mentionnée. Le pape s'est prononcé contre une intervention armée américaine en Syrie en 2013. Et pour cela, il s'est adressé à Vladimir Poutine. Et il a soutenu la position russe de 2013 jusqu'à 2021, sans la critiquer, en tout cas publiquement. Moi, je n'ai trouvé aucune trace de critique. La raison, on la comprend bien, c'est à la fois protéger la minorité chrétienne en Syrie, c'est également s'appuyer sur une diplomatie qui officiellement dit protéger les minorités chrétiennes au Proche-Orient. Mais vous voyez que faisant cela, bien évidemment, on se compromet en quelque sorte avec un régime.
A contrario, le pape n'a pas ménagé ses critiques sur la question de la gestion des migrants, notamment des migrants syriens qui traversaient la Méditerranée. Et on peut dire que sur ce point-là, il est particulièrement proactif. Il ne ménage pas ses critiques. La défense des migrants, ça fait partie de la conception du message de paix, selon François.
Tout à fait. Je dirais que ça, c'est peut-être l'aspect protestataire dans son leadership international. La volonté de souligner un certain nombre de problèmes et le traitement, en l'occurrence, des migrants tel qu'il est fait par l'Occident, par les Européens en particulier, il y a sans doute un aspect plus personnel. C'est-à-dire que lors de sa première visite sur l'île de Lampedusa, les différents témoins que j'ai pu interroger m'ont dit visiblement le pape a été extrêmement touché émotionnellement par les situations qu'il voyait, et ça l'a renvoyé finalement à sa propre histoire. Lui-même est un fils de migrants italiens partis en Argentine, et donc ça explique sans doute l'importance qu'il donne au thème, sachant que de toute façon le thème des migrations est effectivement aujourd'hui un thème particulièrement crucial.
Alors, puisqu'on parle de la diplomatie vaticane, on a rappelé au début de l'émission que le Vatican dispose d'un réseau diplomatique qui peut apparaître démesuré par rapport à la taille de son territoire, mais par rapport aussi à sa puissance économique qui est nulle, sa puissance militaire qui est nulle, sa puissance démographique qui est nulle également. Oui. Finalement, sur quoi repose la force et la légitimité de la diplomatie vaticane?
Alors, c'est une légitimité qui est liée à l'histoire, à l'autorité morale qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas, mais qu'on semble reconnaître au Vatican, qui est quand même l'une des plus anciennes puissances sur la scène internationale. Et puis, c'est lié, comme vous le disiez, à la capacité de mobiliser le réseau diplomatique et même plus largement le réseau des congrégations, des ONG catholiques. La diplomatie du Saint-Siège, c'est aussi une diplomatie préventive et une diplomatie de médiation. Et d'une certaine manière, elle couvre l'ensemble des différentes pratiques. Ce qu'on appelle, vous voyez, la diplomatie de couloir, hein, back-channel diplomacy, c'est d'ailleurs que intervenir sans le dire, mettre en présence des interlocuteurs qui ne veulent pas discuter, mais qui peuvent trouver des espaces confidentiels de discussion. Le Saint-Siège sait le faire. Il l'a fait, vous l'avez dit, à Cuba. Il l'a fait également, c'est moins connu, dans le cadre d'une discussion sur le nucléaire entre l'Iran et les États-Unis d'Obama, même si d'autres pays étaient à la manœuvre. Le Saint-Siège a également joué un rôle dans ce sens-là. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, qui peuvent être effectivement des actions confidentielles ou de la diplomatie préventive lorsque le pape se rend en Afrique dans tel ou tel pays, à un moment où les tensions intercommunautaires peuvent être particulièrement fortes, je pense à la République centrafricaine, et où, se rendant sur place, il pose des gestes symboliques en s'appuyant également sur la force des églises locales. Et donc, c'est par rapport aux faiblesses, à juste titre, que vous soulignez, effectivement, le Saint-Siège n'est pas un État qui a les éléments traditionnels de la puissance. En revanche, sa capacité d'action, elle relève à la fois de l'étendue de sa diplomatie, de son réseau diplomatique, et sur place, je dirais, des capacités d'action des églises locales et éventuellement des ONG catholiques. Ce qui fait du Saint-Siège également un acteur qui peut être un acteur social et un acteur humanitaire. Et ça compte dans un certain nombre de conflits ou de tensions.
Et pourtant, il y a des régions du monde, et je pense au Moyen-Orient, où la diplomatie vaticane, et malgré tous ces réseaux, malgré cette puissance de la diplomatie de couloir que vous venez de décrire, eh bien, semble particulièrement impuissante.
Je lance un nouvel appel pour que l'accès à l'aide humanitaire soit garanti à Gaza. Et je demande une fois de plus la libération rapide des otages capturés en octobre. Je demande un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ne laissons pas les hostilités actuelles continuer à avoir de graves répercussions sur les populations civiles, désormais à bout de souffle, et surtout les enfants. Nous voyons la souffrance dans leurs yeux.
Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini.
Allocution du pape François lors des célébrations de Pâques l'année dernière, en mars 2024, qui appelait à la paix comme il le fait inlassablement au Moyen-Orient, en particulier à Gaza, dans cette région du monde. François Mabille, quels sont les leviers d'action du pape François?
Ils sont faibles. Ils sont faibles pour différentes raisons. 2013, le pape reçoit au Vatican Mahmoud Abbas, le responsable de l'autorité palestinienne, et Shimon Peres, et les trois hommes plantent des oliviers. On voit la situation aujourd'hui. Ce qui veut dire d'abord que pour qu'une médiation soit réussie, il faut que les parties prenantes souhaitent parvenir aussi à un conflit, y compris d'ailleurs lorsqu'on veut leur tordre le bras, on le voit bien dans d'autres situations. Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est que ce soit en Palestine, l'État palestinien était reconnu par le Saint-Siège en tant que tel en 2015, ou que ce soit en Israël, les églises locales sont très faibles, le nombre de chrétiens est très faible. Donc, sur place, la diplomatie du pape a très peu de relais, d'influence et d'action. Et puis, il y a un troisième élément, c'est que très souvent, lorsque la diplomatie du pontifical se mobilise, elle s'appuie également sur d'autres États. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'État sur lequel...
Il n'y a pas d'allié.
Il n'y a pas d'allié, effectivement. Sous Trump 1, il y avait un soutien américain à 100% avec Israël. Sous Biden, bon, on a bien vu tout de même que au-delà des paroles, Biden pesait fort peu. Donc côté américain, il n'y a pas de relais possible. Et puis depuis la guerre en Ukraine, le pape ne peut pas non plus se mobiliser et s'appuyer sur la Russie. Donc les deux forces, je dirais, qui pourraient être des forces de relais d'une action diplomatique, ne peuvent pas être touchées par la diplomatie pontificale. Et du coup, on voit apparaître ce que le Saint-Siège fait dans d'autres cas, c'est-à-dire que lorsque politiquement et diplomatiquement son rôle est très limité, eh bien il se transforme en acteur humanitaire. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, par exemple, en permettant la libération d'otages ou en envoyant de l'aide alimentaire, médicale notamment.
Et quel est l'état des relations entre le Vatican et Israël, en particulier entre le pape François et Benjamin Netanyahou?
Elles ne sont pas bonnes. Alors, elles ne sont pas bonnes parce qu'il y a toujours dans la mémoire d'Israël ce qu'on appelait les silences de Pie XII, même si l'historiographie contemporaine a évolué, il n'en reste pas moins que pour les Israéliens, c'est un point important. Si bien que lorsque le pape mezzo voce, il y a quelques mois, dit « Je sais qu'il y a une enquête pour s'interroger s'il n'y aurait pas un génocide en cours à Gaza », immédiatement, les Israéliens lui rappellent ce passé. Donc,
oui, on va peut-être leur dire les silences de Pie XII vis-à-vis de la Shoah. Hein,
exactement. Il y a ce que j'évoquais il y a un instant, le fait que le Saint-Siège a reconnu la Palestine comme État en 2015, qui a été bien évidemment dénoncé par Israël. Et puis je dirais que côté palestinien, compte tenu de ce qu'est le Hamas, forcément la minorité chrétienne n'a jamais pu se sentir non plus en totale liberté, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la bande de Gaza.
À défaut d'être écouté par les dirigeants du Moyen-Orient, est-ce que les appels de François à cesser la violence comptent pour les populations, y compris les populations non chrétiennes? Est-ce qu'on sait si ces paroles ont un écho? Est-ce que ça lui confère à minima une autorité morale, peut-être une popularité? Et est-ce que ça compte aussi pour le Vatican, ça?
Alors oui, et au-delà des populations locales. On a un certain nombre de sondages d'enquêtes qui ont été menées ces derniers mois, qui sont intéressants, qui montrent que, quel que soit le pays, le pape reste l'un des seuls leaders mondialement connus. Voilà. Et que, deuxièmement, même aux États-Unis, où son image est quelque peu écornée ou en tout cas controversée, globalement, dans tous les pays, l'image du pape est une image positive. C'est-à-dire que par ses différentes actions, qui sont des actions fortes médiatiquement parlant, par ses discours à temps et à contre-temps sur la paix et contre la guerre, il est effectivement identifié comme un homme de bonne volonté qui souhaite la paix. Et donc, ça lui confère une image positive, et je pense qu'au-delà de la région du Proche-Orient, c'est quelque chose qui effectivement a un impact dans d'autres pays, et notamment dans le cas du dialogue interreligieux. Si on reprend un ensemble de voyages du pape, on peut voir que cette thématique du dialogue interreligieux, avec des faits concrets, des documents signés, est particulièrement importante, notamment dans les relations avec les acteurs musulmans. Et ça, c'est un aspect qui est sans doute l'un des plus importants dans la diplomatie du pape François.
François Mabille, dans votre ouvrage, vous expliquez aussi, et c'est important pour comprendre sur quoi se fonde cette boussole de la paix dans la diplomatie du pape, vous expliquez que la vision de François est profondément ancrée dans une confrontation nord-sud, oui, des relations internationales. C'est un pape qui vient de l'Argentine. Comment est-ce que ça influence sa vision de la paix?
Alors ça l'influence, je dirais, dans deux sens. Il y a d'abord une critique récurrente et forte à l'encontre de l'Occident. Si on compare François à Jean-Paul II, on voit bien, et c'est intéressant, à quel point le contexte historique, leur expérience personnelle compte. Jean-Paul II vient de Pologne, et sa lecture des relations internationales en pleine guerre froide, c'est une lecture Est-Ouest. Voilà. Le pape vient d'Argentine, et voilà, il perçoit les Américains d'une certaine manière. Il connaît assez peu l'Europe, mais on voit bien que sa perception, c'est celle d'un homme, d'ailleurs lui-même dit qu'il vient du bout du monde, et en l'occurrence du bout du monde du Sud. Et donc, ça influence sa perception des relations internationales, où il critique un ordre libéral, et cet ordre libéral, c'est un ordre libéral des Occidentaux. Donc il va critiquer cet ordre sous l'angle du économique et social, donc non au capitalisme libéralisme financier, non au trop grand libéralisme. Il va critiquer les dérives ou les conséquences, ça sera la question des migrants que vous avez évoquée. Et il va également critiquer l'ordre des valeurs de cet Occident trop matérialiste à ses yeux. Et ce qui l'amène également à soutenir, je pense à une tribune qui est passée dans les, qui a été publiée dans l'Osservatore Romano, qui est la Pravda en quelque sorte du Saint-Siège, en tout cas le journal du Saint-Siège, et qui a soutenu les dernières réunions des BRICS+, hein, c'est-à-dire donc Brésil, Russie, Inde, Chine, etc., en disant, à travers ces réunions, voilà la tentative d'un nouvel ordre international qui pourrait être plus juste. Et là, on voit bien, vous voyez, que cette lecture nord-sud a un impact sur la perception du pape d'un monde futur et que l'on pourrait effectivement interroger. Parce qu'après tout, on peut se demander si un ordre international reconstruit par Poutine, Xi Jinping et l'ayatollah Khomeini serait plus juste ou moins injuste que l'ordre actuel.
Mais peut-être que le pape François, pour me faire l'avocat du diable, sans mauvais jeu de mots, peut-être que le pape François estime, comme tout État, que ses intérêts sont plus à même d'être défendus en s'alignant sur tel ou tel groupe que sur tel autre. Et est-ce qu'on peut appliquer ce type de raisonnement-là au Vatican, qui a une histoire particulière, on l'a rappelé, une obligation de neutralité par ailleurs. Oui. Voilà, mais en même temps, on voit bien qu'il est aussi pris par la défense d'intérêts, une certaine vision du monde, et que le pape soit ancré dans le sud global, c'est peut-être pas incohérent quand on regarde la démographie aussi des catholiques.
Tout à fait, il y a trois éléments qui jouent, vous avez raison. Alors le premier, c'est que traditionnellement, le Saint-Siège estime que personne ne peut lui être étranger, et donc qu'il est en mesure de discuter, ou qu'il doit être en mesure de discuter avec tout le monde, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, le Saint-Siège a ses propres intérêts, entre guillemets. Et effectivement, en Iran, en Arabie Saoudite, en Russie, etc., vous avez des minorités chrétiennes et le pape se doit d'en tenir compte et d'essayer de promouvoir la liberté religieuse pour ces groupes-là. Et puis le troisième élément que vous avez cité est également tout à fait juste, c'est-à-dire que quand on regarde les évolutions démographiques du catholicisme, on voit bien que c'est dans le sud qu'il y a aujourd'hui une progression la plus nette, en tout cas que l'avenir du catholicisme peut être perçu par le Saint-Siège.
Quand François se déplace en Hongrie, par exemple, en 2023, où il y rencontre Viktor Orban, un dirigeant avec lequel il a beaucoup de différends sur la question des migrants, quel point de convergence va-t-il trouver dans son dialogue avec Orban, puisque le dialogue, c'est la vertu cardinale, selon François, des relations internationales. Eh bien, quel point de convergence va-t-il trouver avec un dirigeant comme Orban, par exemple?
L'exemple est intéressant, parce que précisément, on voit bien les doubles critiques que le pape peut mener, ou ce jeu de critique et soutien qu'il peut entreprendre. La critique, vous l'avez dite, c'est bien évidemment dénoncer la politique et les positions d'Orban à l'encontre des migrants. En revanche, le soutien, c'est de dire il y a dans la politique d'Orban une lutte contre les théories du genre, contre le wokisme, pour un soutien à un ordre chrétien, en tout cas fondé sur des valeurs chrétiennes. Et ça, le pape le soutient. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve là l'ambiguïté que je mentionnais. Alors, sinon l'ambiguïté, en tout cas, le double aspect dans la diplomatie du Vatican qui porte à la fois sur des critiques dans le cadre de conflits, mais également à l'encontre d'un ordre international qui lui semble injuste. Et d'une certaine manière, le François protestataire rejoint ici l'aspect illibéral d'Orban sous l'angle des valeurs et des valeurs chrétiennes à promouvoir.
Mais quand Orban parle de la paix, de la nécessité de faire la paix, on a tendance à y voir une connivence avec la Russie de Vladimir Poutine. Oui. Quand François Lu parle de la paix, il met en avant sa boussole de la dignité humaine, du respect de la vie humaine. Donc, est-ce qu'il parle au fond de la même chose derrière ce mot paix? Est-ce que c'est la même définition? Jusqu'où?
Alors, sans doute pas totalement, mais il y a des éléments qui sont effectivement des éléments convergents. Je dirais qu'au niveau des valeurs sociétales, ce que j'évoquais, hein, lutte contre le wokisme, théorie du genre, etc. Là, on retrouve une similitude qu'on retrouverait d'ailleurs avec un J.D. Vance côté nord-américain.
Hein, donc, on en parlera dans l'épisode de demain.
Demain. Mais J.D. Vance, si on reprend le discours de J.D. Vance en Europe et contre les Européens, il y a des éléments qui sont des éléments très classiques dans la prose catholique officielle. et pas seulement dans la bouche du pape, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver de très nombreuses prises de position au sein de l'ONU de la part d'observateurs du Saint-Siège ou de personnalités significatives comme le cardinal Parolin, qui critiquent effectivement ces aspects-là et on va dire l'ordre libéral occidental.
Comment est-ce que le Vatican se positionne par rapport à l'ONU? Comment le pape François perçoit-il l'ONU? Je vous pose la question parce que quand on voit les nombreux appels du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui ne cesse lui aussi d'appeler à la paix, au respect de la vie humaine, des plus faibles, etc., on a tendance à penser qu'il y a une vision commune. Alors voilà, comment François perçoit-il l'ONU? Est-elle un allié pour lui?
Alors oui, d'une certaine manière, le Saint-Siège soutient les efforts de l'ONU, soutient d'abord le multilatéralisme. Voilà. Donc bien évidemment, l'ONU apparaît comme l'enceinte principale pour cela. C'est un lieu où le Saint-Siège peut s'exprimer précisément parce qu'il a un statut d'observateur qui lui permet d'être dans de nombreuses instances. Il y a une convergence sur les thématiques de la paix, on va dire au sens strict, par rapport au conflit. Ensuite, les divergences, elles seraient peut-être de deux ordres. Il y a une première divergence qu'on a évoquée en début d'émission, c'est que l'ONU, dans sa charte, reconnaît le droit à la légitime défense, et on a bien parlé des inflexions du pape sur le sujet. Et puis, il y a d'autres thématiques, et notamment les thématiques liées à la démographie, contrôle des naissances, qui font l'objet, voire égalité homme-femme, femmes poussées, alors je dirais non pas à l'extrême, mais dans la dynamique actuelle, et à l'égard desquelles le Saint-Siège émet plus que des réserves. Et ça de longue date. On pourrait remonter au sommet de la Terre sur la démographie au Caire en 1995 pour voir des oppositions frontales, d'ailleurs un front uni des religions contre l'ONU et contre, en l'occurrence, les politiques de certains États à ce moment-là.
Je renvoie à l'émission d'hier où on a bien vu que la question de la place des femmes dans l'Église était un point d'achoppement très, très, très fort. On parlera des États-Unis dans l'épisode de demain, mais tout de même dans un monde où les relations internationales ne sont plus que désormais rapports de force qui tendent à court-circuiter les usages de la diplomatie sous l'impulsion de Donald Trump. Quelles sont les armes du Vatican pour survivre dans ce monde-là? Puisqu'on l'a rappelé encore une fois, c'est une diplomatie qui repose sur une autorité morale et spirituelle sans puissance. Comment le Vatican peut-il survivre face à ce monde-là façonné par les États-Unis?
Dans un rapport de force, bien évidemment, le Vatican est en difficulté. Voilà. Ce qui lui reste comme élément, c'est précisément de soutenir également les oppositions à la position aux différentes positions de Trump, et donc plaider à temps et à contre-temps pour le multilatéralisme, plaider en faveur de l'ONU et essayer de convaincre les États ou les gouvernements, en l'occurrence, qui seraient enclin à céder trop rapidement à Trump, de résister.
Et la vision, l'ambition pacifiste de François peuvent-elles, à votre avis, lui survivre? Ou bien est-ce qu'il faut s'attendre à un retour à une diplomatie peut-être plus neutre de la part de son futur successeur, pardon?
Alors, il y a toujours un retour sur expérience lorsque on assiste à une fin de pontificat. Il me semble effectivement qu'il y aura une interrogation sur ce sujet-là. D'une part parce que le cardinal Parolin, qu'on a évoqué, mais différents milieux catholiques se sont interrogés sur la conception et la pratique de la neutralité par le Saint-Siège. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut discuter avec les infréquentables et si oui, jusqu'où? Le cardinal Parolin a parlé de neutralité positive, ce qui est une façon de dire neutralité certes, mais tout de même en faveur de certaines valeurs. Ça n'est d'ailleurs pas propre au Saint-Siège. L'Autriche, État neutre, a parlé de neutralité stratégique, la Suède est sortie de sa neutralité, donc on voit bien que les petits États neutres s'interrogent sur cette question de neutralité. Et puis effectivement, en fonction de l'évolution du monde, des rapports de force, un pape qui ne viendrait pas comme le pape François du Sud et qui aurait peut-être une sensibilité plus européenne pourrait rééquilibrer en quelque sorte ou revenir sur certaines avancées de ce pontificat.
Vous écoutez Culture Monde, second épisode de notre série sur les catholiques dont le doute aujourd'hui, le pape François en mission pour la paix. Dans un instant après la musique, focus historique sur une médiation réussie entre Cuba et les États-Unis.
Ti porterò in terapia, solo per farti capire il male che fai, spero che sia un'amnesia. Spengo la luce e mi vieni a trovare, fluoxetina, poca saliva. Quando mi trovo a parlare di te, sei la carne viva, la mente schiva, vaga nel buio più buio che c'è. Sento un pugno nello stomaco.
raggiungimi, poi lasciami respirare, serotonina, cerca di illudimi. Dentro i miei occhi, guerra dei monti, tu mi conosci meglio di me. Vorrei guarire ma non credo, vedo nero pure il cielo, vetri rotti, schegge negli occhi. Prenditi i sogni, pure i miei soldi, basta che resti lontana da me. Vero il bicchiere mezzo pieno con due gocce di veleno. Tu mi fotti, respiri corti, aumenta pure il battito, 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 battito accelerato. Affronto una guerra da disarmato, ho alzato barriere di filo spinato, ma li ho sempre messe nel lato sbagliato. Mi sento annullato, dottore che cosa mi ha dato? Socialmente accettato, anestetizzato da un metodo legalizzato. Calmati, sto contando i battiti, siamo così fragili, ci fermiamo anche sfiorandoci. Ti odiavo, te lo giuro, facciamo un po' ciascuno, basta un po' di zucchero e va giù pure il cianuro.
Le chanteur italien Fedez, qui participait au festival de Sanremo en Italie, à l'occasion duquel le pape avait déclaré que la musique est un instrument de paix. Nous essayons ce matin de comprendre comment le pape a fait de la paix la priorité et la boussole de sa diplomatie. Focus à présent sur Cuba, un cas d'école et une victoire historique pour la diplomatie papale.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Gracias Santo Padre por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones.
Merci Saint-Père d'avoir favorisé le processus de renouvellement des relations entre Cuba et les États-Unis, qui profitera beaucoup à nos peuples.
Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo.
Nous espérons que votre appel à la paix ne s'étendra pas seulement au plus haut niveau politique, mais qu'il sera aussi entendu par les peuples des deux nations, et en particulier notre peuple cubain vivant ici et aux États-Unis.
Le cardinal cubain Jaime Ortega qui, en septembre 2015, à l'occasion de la visite du pape à la Havane, remerciait François d'avoir œuvré à l'apaisement des tensions entre l'île communiste et les États-Unis. Après de longs mois de négociations, le 17 décembre 2014, les présidents Raúl Castro et Barack Obama avaient annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques, un allègement des sanctions et la libération de prisonniers politiques, un rapprochement historique entre les deux pays et une victoire pour diplomatique pour le Vatican. Bonjour Constance Colonna Cesari.
Bonjour.
Et bienvenue dans Culture Monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et réalisatrice, autrice de « Dans les secrets de la diplomatie vaticane » paru au Seuil en 2016 et du documentaire « Les diplomates du pape » sorti sur Arte en 2017. Il faudrait peut-être commencer par rappeler, Constance Colonna Cesari, que la préoccupation du Vatican pour Cuba est ancienne. Elle ne date pas de l'arrivée au pouvoir d'un pape d'origine latino-américaine.
Oui, bien sûr, hein. Absolument. On a déjà des grands succès historiques de la diplomatie du Vatican dans la crise des missiles soviétiques à Cuba en octobre 62. Ne l'oublions pas, Jean XXIII parvient finalement, grâce à un discours publié en une de la Pravda, ce qui est évidemment un événement considérable dans cette URSS, alors évidemment sous Khrouchtchev, finalement proposer une solution de sortie dans cette crise qui aurait pu provoquer on ne sait pas quoi, mais quelque chose de très dangereux. Et donc, c'est un succès déjà historique. Et puis, on a un régime castriste qui s'adoucit dans les années 70, hein, alors qu'il a été au départ très anticlérical, hein. Il y a eu des prêtres chassés par bateaux entiers de la Havane, hein. Donc une période où même l'actuel, enfin celui qu'on vient d'entendre, le cardinal Jaime Ortega, lui-même a été emprisonné dans des camps à la Havane dans les années 60, donc un adoucissement progressif à partir des années 70, et puis une visite de Fidel Castro au Vatican qui a précédé de deux ans une visite historique du pape Jean-Paul II à la Havane en janvier 98 avec une grande phrase « Il faut que Cuba s'ouvre au monde et le monde à Cuba ». Donc on est dans un processus, si vous voulez, historique de long terme, comme l'est toujours la diplomatie du Vatican, qui voit l'éternité, hein, qui a l'éternité pour elle. Donc, évidemment, après ce voyage historique de Jean-Paul II en janvier 98, les choses bougent. Benoît XVI lui-même pourra aller à La Havane, puis ensuite cette médiation spectaculaire de François.
Dans cette phrase que vous avez citée de Jean-Paul II lors de son voyage en 98 à La Havane et qui dit « Cuba doit s'ouvrir au monde, le monde doit s'ouvrir à Cuba », on y lit en filigrane la critique de l'embargo qui est imposé par les États-Unis en 1962 sur l'île. Est-ce que c'est cette critique de l'embargo que François reprend à son compte et qui va guider son action pour s'investir dans une mission de médiation entre Cuba et les États-Unis ?
Ah oui, la dénonciation de l'embargo, elle est ferme, elle est constante, elle n'a jamais cessé d'être la ligne de la diplomatie vaticane tout au long de ces années, à partir du moment où cet embargo s'applique. Et la ligne de François, c'est de dire, et c'est ce qu'il dira face à face à Barack Obama en mars 2014, cet embargo non seulement ne produit pas les résultats que vous escomptez, c'est-à-dire qu'il n'a jamais mis le régime cubain à genoux, au contraire, il a tenu, et c'est sa force, mais c'est le peuple, c'est la population qu'il frappe. Donc c'est une injustice, c'est évidemment une valeur importante pour la diplomatie de l'Église, et ça a été donc sa ligne tout au long de ces décennies, hein, vis-à-vis de Cuba, et c'est cette ligne qui soudain se fracture grâce à l'action du pape François et de son interlocuteur qui devient Barack Obama.
Et donc, dès son arrivée au pouvoir en 2013, François se saisit de ce dossier et pendant des années, de longs mois, les négociations vont se dérouler en secret. Pourquoi, en quoi cette discrétion a-t-elle été une des clés du succès de la médiation ?
Alors, c'est vrai que c'est un savoir-faire unique, hein, ça, pouvoir agir dans le silence. Voilà, le Vatican est connu aussi pour cette prudence, cette capacité à ménager un secret. En l'occurrence, à partir du moment où, pour Cuba, donc la première audience, hein, historique entre le président Barack Obama et le pape François intervient en mars, le 27 mars 2014, dans les appartements du pape, et que finalement tout tourne autour de Cuba très vite, eh bien, à partir de là, on a une forme de pacte entre les deux hommes qui se met en place, qui s'appuie sur une rencontre humaine, une sorte de coup de foudre aussi entre les deux hommes, alors que leurs relations, elles étaient très mal parties au départ, hein. François Mabille le rappelait tout à l'heure, il y avait cette prière pour la paix en Syrie qui s'opposait, que le pape avait convoqué en septembre 2013, et qui s'opposait à l'intervention voulu par les Américains dans le ciel syrien. Donc les relations entre Washington et le Saint-Siège n'étaient pas au beau fixe, mais la rencontre va tout changer. Pourtant, si on regarde évidemment les choses du point de vue américain, il y a quand même un obstacle. On connaît l'opposition évidemment anticastriste, notamment en Floride, elle est très vive. Il y a des milieux politiques aux États-Unis qui sont très hostiles à un rapprochement avec Cuba. Et c'est pourquoi ce rapprochement n'avait jamais eu lieu jusqu'à cette année 2014. Il y avait eu des tentatives, hein, sous Hillary Clinton, on les connaît, les rencontres, des négociations, mais qui ont toujours capoté. Et là, on a ce pape latino-américain, ce qui change la donne. On a ce président Barack Obama qui est en fin de son second mandat, donc qui ne peut pas être réélu. Et évidemment, ça rend l'agenda favorable. On a une visite aussi, on a un congrès.
Constance Colonna Cesari, justement, vous le disiez, visiblement, il y avait aussi une conjoncture qui était favorable au rapprochement, et ça pose la question de savoir à quel point on peut mettre au crédit de la diplomatie vaticane le rapprochement entre Cuba et les États-Unis, à quel point cela tient aussi à un moment favorable avec deux dirigeants, Raúl Castro, Barack Obama, qui finalement peut-être avaient plus d'intérêt à une détente qu'à maintenir la tension.
Ah oui, mais c'est ça l'intelligence de la diplomatie, c'est de saisir en fait un agenda favorable, un interlocuteur qui est le bon interlocuteur, le moment historique. Donc en effet, le pape François a eu cette intuition et a permis par son action finale et par ce pacte qui donc s'est conclu dans les appartements du pape François le 27 mars 2014, de mettre en marche un plan précis avec un déroulé, avec des étapes assez intéressantes, voilà, qui va aboutir aux deux déclarations du 17 décembre 2014, dans lesquelles et le président Barack Obama et le président Raúl Castro annoncent à la même heure voilà, le rétablissement de leurs relations diplomatiques, juste après qu'il y a eu un échange des prisonniers sur le tarmac des aéroports respectifs, parce qu'évidemment, il y avait une défiance sur ce terrain-là. Or, il y avait encore des agents américains, un agent détenu à La Havane et inversement. Donc voilà, c'était... voilà, le pape François a réussi finalement
à saisir le bon moment.
Voilà, empêcher cette défiance.
10 ans plus tard, la grande question qui se pose, c'est évidemment que reste-t-il de ce rapprochement, de cette médiation qui a été tant louée par les uns et les autres. Les relations aujourd'hui sont au plus bas entre Cuba et les États-Unis. Trump a réinscrit Cuba sur la liste des organisations qui soutiennent le terrorisme. Que reste-t-il du rapprochement de 2015, 10 ans après ?
Alors, au moins un symbole, c'est-à-dire que les relations diplomatiques n'ont pas été rompues, c'est déjà pas si mal, il reste ça, un drapeau américain flotte à La Havane et inversement un drapeau cubain à Washington, c'est quand même un symbole important. Et puis, surtout, on voit, alors, c'est un pas de plus, un espace qui s'est encore élargi pour l'Église cubaine, donc à Cuba, évidemment, où là, on est quand même encore dans un régime de parti unique, mais il y a un espace pour l'Église cubaine. Il y avait eu un cardinal cubain, ça aussi, c'est toujours une importance, un poids qu'on accorde supplémentaire à une Église locale. Ça a continué et on sait que cette Église cubaine et que le président Miguel Díaz-Canel ont accepté récemment une libération de prisonniers politiques. Donc ça, c'est un rôle qu'a toujours joué le cardinal Jaime Ortega, hein, grand archevêque de La Havane, même après d'ailleurs son départ de l'archevêché jusqu'à sa mort en 2019. Et donc, cette action se poursuit. Elle s'est inscrite officiellement dans le jubilé pour les prisonniers. Hein, c'est quelque chose qu'a voulu un événement du jubilé, qu'a voulu le pape François. Donc encore une fois, c'est une façon de montrer que le lien est resté, que cette médiation continue d'avoir des fruits et qu'en plus, elle s'est signée une admiration pour le pape François qui continue à se manifester, évidemment.
Et une place particulière pour l'Église catholique dans l'île communiste. Merci beaucoup, Constance Colonna Cesari. Je rappellerai donc votre ouvrage « Dans les secrets de la diplomatie vaticane » paru au Seuil en 2016. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous aviez été l'une des premières à avoir accès à ce scoop de la médiation papale entre Cuba et les États-Unis. Et puis votre documentaire, Les diplomates du pape, c'était sur Arte. Merci beaucoup à notre invité de la première partie de cette émission, François Mabille. Je rappellerai pour vous Le Vatican, la papauté face à un monde en crise. C'est paru tout récemment aux éditions Erol et je le conseille pour aller plus loin dans la discussion que nous avons eue ce matin. Merci à tous les deux. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et en Hongrie, Catherine, le Parlement a amendé la Constitution hier, ciblant les personnes LGBT+ et les binationaux.
Les parlementaires hongrois ont décidé de graver dans le marbre de la Constitution l'existence des seuls genres masculins ou féminins et la primauté du droit des enfants sur tous les autres, rapportent les sites hongrois Telex et Irado. Mais ce n'est qu'un moyen de légiférer sur la peur dans un pays pourtant membre de l'Union européenne, explique le quotidien de gauche Népszava. C'est une bascule supplémentaire de la Hongrie vers une gouvernance illibérale, ajoute la BBC. Car en faisant primer le droit des enfants sur tous les autres droits fondamentaux, la majorité qui soutient le Premier ministre Viktor Orban a voulu créer une base constitutionnelle pour interdire, au nom de la protection des enfants, la Budapest Pride, la marche des fiertés LGBT+, dans la capitale hongroise. Viktor Orban avait salué cette législation le mois dernier en déclarant « Nous ne laisserons pas l'idéologie woke mettre nos enfants en danger », rapporte la BBC. Eh bien aujourd'hui, tout autre rassemblement qui ne serait pas du goût du Fidesz, le parti au pouvoir, pourrait bien être concerné, alerte le journal Népszava. Szava.
Felhívom szíves figyelmüket, hogy ennek elfogadásához az országgyűlési képviselők kettőharmadának.
Veuillez noter qu'un vote oui chez les deux tiers des membres du Parlement est nécessaire pour adopter les amendements à la Constitution, déclare le président du Parlement. Mais l'annonce des résultats, vous l'entendez, du vote est interrompue par une corne de brume en signe de protestation des députés de l'opposition, tandis qu'une bannière violette et blanche est déployée dans l'hémicycle de Budapest avec les mots « Vous pouvez nous interdire, mais pas la vérité », comme on peut le voir à la télévision publique hongroise Magyar Televízió, vidéo également reprise par le Guardian et la BBC. Nouvelle protestation de l'opposition dans l'hémicycle après l'annonce des résultats. Protestation aussi des manifestants à l'extérieur du Parlement.
Le droit de réunion est un droit fondamental, ont aussi scandé les partisans de la démocratie et les défenseurs des droits humains.
Ils ont bloqué le pont Marguerite dans le centre de Budapest, soutenu sur X par la commissaire européenne à l'égalité, indique la BBC, car cela fait des mois que des milliers de Hongrois manifestent contre ce tour de vis législatif constitutionnel, rappelle le site Hongrois Index, des manifestants qui brandissent des drapeaux européens, hongrois ou le drapeau arc-en-ciel LGBT+. Hier soir encore, c'est ce qu'ils ont fait, montre Népszava et le quotidien Magyar Hírlap. Le premier ministre nationaliste Viktor Orbán, qui avait promis ce grand nettoyage de Pâques contre ses rivaux taxés de punaises, rapporte la BBC, a également fait adopter un texte qui s'attaque donc aux binationaux jugés traîtres à la nation. Le gouvernement peut désormais suspendre la citoyenneté hongroise de ces binationaux, indique l'hebdomadaire hongrois HVG et le Guardian, qui souligne la tendance facile de Viktor Orbán d'accuser ses détracteurs de s'immiscer dans les affaires intérieures sous couvert d'ONG et de médias se disant indépendants. En possible ligne de mire, le financier et philanthrope George Soros, âgé de 94 ans, né à Budapest et naturalisé aux États-Unis. Le parti d'opposition Momentum en Hongrie s'inquiète des similitudes avec les restrictions adoptées en Russie par Vladimir Poutine, rapporte également Magyar Hírlap. Viktor Orbán se présente comme le président russe. En tant que défenseur des valeurs familiales traditionnelles, il instaure des politiques telles que l'interdiction pour les couples de même sexe d'adopter des enfants, l'interdiction de toute mention des questions LGBTQ+, dans les programmes scolaires. Et Viktor Orbán peut aussi se sentir enhardi par sa proximité avec Donald Trump aux États-Unis, explique la BBC. Les amendements constitutionnels d'hier ouvrent également la voie aux autorités pour utiliser un logiciel de reconnaissance faciale afin d'identifier les participants à des manifestations et potentiellement leur infliger une amende, note le Guardian, alors que le parti de Viktor Orbán au pouvoir depuis 2010 perd du terrain avant les élections prévues l'an prochain en Hongrie. Un nouveau parti de centre-droit, TISA, avec un ancien membre du parti Fidesz, Péter Magyar, sont en tête des sondages, explique la BBC. Péter Magyar, interrogé par la Deutsche Welle, veut lui parler du quotidien des Hongrois, de la situation économique très mauvaise, de la crise du coût de la vie provoquée, selon lui, par le gouvernement Orbán, l'état déplorable aussi du système de santé publique en Hongrie et le système éducatif. Quant aux organisateurs de la Budapest Pride, qui attire régulièrement des dizaines de milliers de personnes dans la capitale hongroise, ils donnent, eux, rendez-vous le 28 juin prochain pour maintenir cette marche. Et le maire de Budapest incite le plus grand nombre à défiler dans les rues de la capitale hongroise, rapporte le quotidien Népszava, le maire de Budapest pour qui, soit nous sommes libres tous ensemble, soit aucun de nous ne l'est. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, je vous rappelle l'adresse pour nous écrire, fcrdpi@radiofrance.com. Nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain pour la revue de presse dans la matinale de Guillaume Erner. Et nous, eh bien, on se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée aux catholiques. Et il sera question de la montée des courants identitaires aux États-Unis, incarnés notamment par le vice-président américain J.D. Vance. Et dans un instant, les midis de culture par Marie Laborie.